Bonjour à toutes, bonjour à tous, fidèles et nouveaux auditeurs de notre web radio. Je suis Serge Bounic du groupe Numérilettres de l'Académie d'Orléans-Tours. C'est avec un plaisir sincère que je vous accueille pour cette 19e émission des souris et des lettres. Celle-ci est parrainée par Madame Pinsard, IPR de lettres, et pilotée par Philippe Godiveau. Vous entendrez également les voix d'Angélique Voisin, de Marie Pourriot, de Clément Bigot, de Christelle Delas et de Karine Lanista. Vous remarquerez également une nouveauté dans cette présentation, c'est Jeanne Dreveton qui se lance aujourd'hui dans la partie technique de l'enregistrement, dans un studio aimablement aménagé par le Canopé d'Orléans. Comme vous le constatez, chers auditeurs, tout est prêt pour aborder le thème de notre présente émission, intitulée « Se former à la citoyenneté, outils et pratiques numériques en lettres ».
Les souris et les lettres.
Dans le monde tourmenté dans lequel nous nous trouvons, certains voudraient sanctuariser l'école. Cette position paraît tout à fait louable s'il s'agit de protéger physiquement les jeunes que nous formons. Mais elle devient illusoire quand il s'agit des esprits. Il importe alors à chacun d'entre nous de mettre tout en œuvre pour favoriser l'émergence d'un regard critique capable d'analyser les diverses positions, de se protéger de tous les endoctrinements et de se forger une conscience citoyenne garante d'un meilleur vivre ensemble. Dans cette perspective, le professeur de français semble en première ligne à travers les textes qu'il propose, à travers son respect de programmes qui incite ses élèves à argumenter, tant à l'écrit qu'à l'oral, à travers son usage des outils numériques qu'il met à disposition de ses classes, ouvrant ainsi celle-ci à la planète entière. Mais dans chaque situation, l'enseignant doit mesurer les risques et valoriser les bénéfices de sa démarche. Une démarche toujours guidée par un humanisme sincère, comme va nous le rappeler Angélique Voisin dans son éditorial.
Je suis un citoyen du monde, ma patrie est partout, ou plutôt, je suis étranger pour tous.
Merci très cher maître Desiderius Erasmus Rotterdamus pour cette réflexion humaniste que je tenterai de garder à l'esprit pour mener à bien cet éditorial. La problématique du jour est vaste. Il s'agit de s'interroger sur la place de la citoyenneté numérique dans l'enseignement. Merci également à Reed Speaker pour cette voix de synthèse disponible en démo sur leur site. Cette brève lecture nous a permis de faire ressurgir virtuellement un des pères de l'humanisme. Accéder au numérique, c'est effectivement entrer dans un nouvel espace dans lequel les règles du vivre ensemble, même si elles restent souvent subtiles, mouvantes et implicites, n'en restent pas moins réelles. Les élèves, formés à cet univers numérique, deviennent ainsi citoyens d'un monde virtuel dont la patrie est effectivement partout. La classe s'ouvre sur le monde. Les informations sont à portée de tous. Mais encore faut-il savoir quoi saisir. Si les plus belles œuvres sont à portée de clics, s'il est possible de surfer d'un musée à l'autre, d'un manuscrit numérisé à une interview podcastée de célébrité, il est pourtant aussi possible de se perdre dans les méandres de ressources plus ou moins fiables.
L'esprit de l'homme est ainsi fait, le mensonge a 100 fois plus de prise sur lui que la vérité.
Merci à nouveau, Erasme Reed Speaker, de nous alerter sur cet écueil possible. Marie et Clément se sont penchés sur le sujet de la désinformation afin que nous soyons plus vigilants sur ces risques. Notre responsabilité pédagogique est en jeu afin que les élèves parviennent à sélectionner de façon autonome et responsable les informations qui correspondent à un besoin intellectuel, artistique, relationnel, personnel ou scolaire, et qu'ainsi ils transforment ces informations en autant de savoir éclairant leur esprit. À ce sujet, je vous conseille un détour vers l'exposition BNF intitulée « Lumière ». Espérons que le numérique favorisera chez nos élèves ce nouvel esprit.
Les souris et les lettres.
Comme vous le savez, chers auditeurs, autour de ce micro, nous sommes plutôt ouverts au monde du numérique, dont nous analysons et utilisons avec intérêt les potentialités chaque jour plus riches et nombreuses. Cela ne nous rend pourtant pas aveugles. Nous observons aussi avec inquiétude la prolifération de messages violents, de propos discriminatoires, d'informations fausses, d'images dégradantes et d'annonces anxiogènes. Au lieu de transmettre les valeurs et la culture de l'humanisme, Internet est souvent le vecteur d'une dangereuse désinformation. Peut-on observer ce phénomène sans réagir ? Marie Pouriot, dans le cadre de son enseignement au collège, comme Clément Bigot au lycée, répond par la négative. Il pense même que les outils numériques, au lieu d'être des vecteurs de haine, peuvent permettre aux professeurs de français de combattre cette désinformation. C'est ce que nous allons pouvoir découvrir dans notre rubrique « Le sujet du jour ». Marie, tout d'abord, tu as voulu te fonder sur des textes institutionnels pour légitimer ta pratique en collège.
Oui, Serge. La récente réforme a fait émerger la création d'un parcours citoyen. Ce parcours permet de transmettre et d'apprendre les valeurs de la République, de l'école élémentaire à la terminale. Il prend appui, entre autres, sur l'éducation aux médias et à l'information. Celle-ci a pour visée de, je cite le texte officiel, « permettre aux élèves d'apprendre à lire, à décrypter l'information et l'image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, compétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. »
Mais maintenant, Marie, si on abordait concrètement cette pratique en collège ?
Alors pour le collège, j'ai choisi d'aborder aujourd'hui l'axe d'étude de l'antisémitisme. Cette question peut être rattachée en français à la thématique « agir sur le monde » et plus précisément en troisième « agir dans la cité, individu et pouvoir », en lien ainsi avec la programmation annuelle en histoire qui s'intitule « L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales ». L'objectif est de montrer aux élèves comment les idées reçues ont eu et ont encore aujourd'hui la vie dure, l'idée étant de les amener à réfléchir sur les préjugés et les stéréotypes.
Et c'est à ce moment de ta démarche que tu fais intervenir le numérique.
Oui, tout à fait. Je vais vous présenter aujourd'hui une ressource internet récente et pour le moment peu connue, le site lestémoins.fr, publié par le CERCIL. Je le rappelle, il s'agit du Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret. Et cette ressource est disponible depuis mai 2016. Tous ces documents, à l'origine, devaient être publiés en format papier. Il s'agissait de textes, d'images, de documents iconographiques. Et la ressource Internet a été privilégiée car celle-ci offrait plus de liberté d'action, plus de marge de manœuvre. Internet permet aux témoins de voir leurs témoignages complets et non censurés. Et cette ressource est renouvelable en permanence. Ce site devient ainsi, par sa simple existence, un outil permanent, à la fois pour les chercheurs, mais également pour le public.
D'accord, Marie, mais dans la classe, comment peux-tu employer un tel outil ?
En français, le professeur dispose ici d'un large éventail de textes et d'iconographies qui, en plus de pouvoir aborder le genre autobiographique, permettent, par exemple, de préparer les élèves à l'épreuve écrite 1 du nouveau DNB. En effet, cette épreuve regroupe désormais l'histoire-géographie, l'EMC et le français, autour d'une thématique commune. Au cours de cette épreuve, les candidats sont évalués, je le rappelle, sur leurs compétences d'analyse et de compréhension de documents et de maîtrise de différents langages. En français, plus particulièrement, sur un texte associé à une image. Les témoignages du site lestémoins.fr sont construits dans ce sens, puisque pour chaque individu, le professeur trouve un texte et une iconographie correspondante. En français également, l'étude de ces témoignages peut, par exemple, être le point d'ancrage à un exercice d'écriture autobiographique, type sujet d'invention, ou à un exercice d'écriture argumentative, type sujet de réflexion, qui amènerait les élèves à débattre sur la question des préjugés et des stéréotypes concernant l'antisémitisme.
Et vois-tu d'autres avantages pédagogiques liés au site dont tu parles ?
Alors, pédagogiquement, le site Internet est accessible gratuitement. Il a pour objectif de montrer à travers le portrait des témoins la vie des Juifs telle qu'ils l'ont appréhendée dans les années 30-40. Le site est très riche en textes et documents. Il peut ainsi générer, pourquoi pas sous la forme d'un EPI, un travail riche, liant l'histoire et le français sur la lutte contre l'antisémitisme, les lois anti-juives, le paradoxe de la nationalité française et du rejet des Juifs. Thèmes tout aussi actuels qui permettent aux enseignants d'amener les élèves à réfléchir sur la maîtrise de l'information lorsque l'on est en recherche de vérité.
Donc, à travers ce site, on observe qu'Internet peut offrir aux professeurs de français en collège un instrument précieux.
Oui, bien sûr, car grâce à cet outil numérique, l'enseignement du français peut permettre de mieux répondre à certains principes républicains fondamentaux, dont la lutte contre les clichés et les préjugés sociaux, religieux. Cette documentation devient une arme contre l'antisémitisme car elle utilise les moyens de communication actuels, Internet. L'accès y est illimité et les témoignages restent accessibles en permanence. Le site permet de lutter également contre l'oubli, de favoriser le devoir des mémoires essentielles aux générations futures. Et la richesse des témoignages et des documents iconographiques est également une arme efficace contre les idées négationnistes.
Merci Marie pour ce riche travail. Clément, toi tu enseignes au lycée et tu as choisi de te placer sous les auspices de la philosophie des Lumières pour réaliser une séquence propre à mieux lutter contre les préjugés. Ta réflexion, Clément, part d'un constat.
Oui Serge, ce constat est du reste partagé par un bon nombre d'entre nous, c'est que nous sommes soumis aux images. Pourquoi soumis ? Soumis par leur nombre, leur multiplicité, il nous suffit de penser aux publicités, aux diverses émissions télévisuelles, au cinéma, et également soumis par leur pouvoir intrinsèque. Les images s'offrent à nous instantanément, notre intellect perçoit les images dans leur globalité sans réaliser pour les déchiffrer, pour les décoder. L'effort important que demande par exemple la lecture d'un texte. Cette double dimension permet aux images de nous manipuler de manière extrêmement efficace, et ce d'autant plus lorsqu'elles s'enchaînent très rapidement, lorsqu'elles sont dites mobiles, lorsqu'elles sont moins facilement saisissables, autrement dit, que l'on pense au cinéma, au reportage télévisé, encore une fois, et ainsi de suite. Or, nos élèves, peut-être plus encore que les adultes qui disposent d'un certain esprit critique, sont influencés par les images mobiles. Ils baignent dans cette culture. Celles-ci peuvent ainsi régulièrement renforcer l'intolérance et son lot d'idées nauséabondes. Alors le racisme, l'antisémitisme, comme on parlait, comme l'évoquait Marie tout à l'heure, mais aussi l'homophobie, la xénophobie et bien entendu le sexisme. Que l'on songe ainsi à tous les films du dessin animé, aux séries dites plus sérieuses, où les figures féminines apparaissent régulièrement plus faibles que les figures masculines, où elles ne forment qu'un objet de convoitise, de quête, où elles n'apparaissent qu'en tant que faire-valoir auprès de l'individu masculin, dans la droite lignée de l'amour courtois.
Et c'est en partant de telles constatations que tu as construit ta séquence.
Oui, alors il s'agit d'une séquence portant sur la lutte contre les stéréotypes sexistes en littérature, en particulier dans la littérature du 18e, et aussi dans le cinéma, auprès d'élèves de première STI 2D. Une classe qui, soit dit en passant, est très largement composée de garçons. Entre les études de texte de Simone de Beauvoir, de L'âme de gouge, de Diderot, j'ai proposé à mes élèves une activité portant sur le court-métrage intitulé « Majorité opprimée » d'Éléonore Pouria, disponible sur YouTube. Ce court-métrage prend le contre-pied de beaucoup de clichés sexistes quotidiens. Par exemple, les femmes font leur jogging torse nu, ne sont pas maquillées, conduisent davantage que leurs maris, tandis que les hommes ont des codes vestimentaires plus pesants, sont maquillés, s'occupent exclusivement des nourrissons, du ménage, et sont la proie dans la rue de réflexions et de gestes agressifs portant sur leur physique. En fait, ce court-métrage prend le contre-pied des clichés sexistes et inverse complètement les rôles. Ces différents paradoxes sont facilement repérables et exploitables à l'aide des outils numériques. Que l'on se contente de vidéoprojeter le court-métrage sur un tableau blanc et d'annoter des scènes mises sur pause, ou que l'on utilise toute la palette de fonctions du TBI, à titre d'exemple, on peut utiliser la fonction rideau pour mieux se concentrer sur un détail et l'interpréter, ou réaliser des captures d'écran afin d'effectuer ensuite un travail comparatif entre les images capturées. En somme, le recours au TIS permet d'inciter les élèves à réfléchir activement et finement au pouvoir des images et à leur dimension polémique, tout en les incitant à reconnaître que les intentions de la réalisatrice résident précisément dans le fait de tordre le cou au sexisme quotidien. Cette activité atteint donc un double objectif, permettre d'un côté aux élèves d'être moins soumis aux images mobiles et de l'autre de leur faire prendre conscience de la réalité de cette chape de plomb qu'est le sexisme quotidien.
Oui Clément, tu as tout à fait raison, lorsque tu utilises les outils numériques les plus proches de l'univers des adolescents pour combattre les stéréotypes qui polluent l'univers de ces mêmes adolescents.
Les souris et les lettres.
Si j'en crois la définition proposée sur Wikipédia, l'identité numérique peut être définie comme un lien technologique entre une entité réelle et des entités virtuelles. L'évolution incessante des technologies de la communication ainsi que leur multiplication amplifient le caractère problématique de ce rapport. Nous autres, qui autour de ce micro militons pour un enseignement du français adossé à des pratiques raisonnées du numérique, nous nous sentons directement interpellés par cette problématique, rapprochant l'identité réelle et l'identité virtuelle. Pour nous, il ne s'agit pas d'une simple interrogation théorique, car nous avons la responsabilité des élèves qui sont dans nos classes. Et nous savons les ravages que peuvent occasionner certaines idées confuses entrées dans l'esprit de ces adolescents. C'est pourquoi, avec Philippe Godiveau, nous allons tenter de clarifier les choses dans la rubrique « Ils n'apprennent plus comme avant ». Mais Philippe, avant d'entamer notre réflexion sur les liens complexes entre identité réelle et identité virtuelle, il me vient à l'esprit une question plus restreinte, plus restrictive. De quelle manière rattacher le thème de l'identité à notre champ disciplinaire ?
En fait, c'est très simple, mon cher Serge. Il suffit pour cela d'interroger les œuvres ou l'histoire littéraire, en ne nous référant qu'au seul XIXe siècle. Jean Valjean, Edmond Dantès, Ferragut, le colonel Chabert, le docteur Jekyll posent le problème de l'identité. Et que dire de Stendhal, George Sand et d'autres auteurs pour lesquels les pseudonymes furent un élément définitoire de leur identité.
Certes, mais nous sommes là face à des êtres de papier ou à des artistes. Cette dimension plurielle de l'identité est-elle vraiment valable pour chacun d'entre nous en ce début du XXIe siècle ?
Plus que jamais, notre identité se décline au pluriel, et pour être précis, en trois parties. La plus évidente est l'identité personnelle, qui se fonde sur nos noms, prénoms, dates et lieux de naissance. C'est elle qui nous confère d'ailleurs une existence juridique. La deuxième est l'identité sociale, qui nous place dans un rapport à autrui pour définir les statuts. Reprenons ici un lexique numérique, statut que nous partageons avec autrui, sexe, âge, métier, centre d'intérêt. Cette identité peut d'ailleurs constituer une porte d'entrée pour un travail d'argumentation autour des réseaux sociaux, leur rôle, leur impact sur notre vie. Enfin, il nous reste l'identité culturelle, qui se manifeste par l'adhésion d'un individu aux normes et aux valeurs d'une culture définissant sa personnalité. Voilà à nouveau un élément de taille pour faire réfléchir aussi bien nos collégiens que nos lycéens.
N'oublions pas qu'à cette période de la vie, il faut avant tout exister aux yeux des autres.
Ah, tu as tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs sur cela que jouent Facebook, Twitter, Pinterest et tant d'autres services sans que les jeunes utilisateurs en aient vraiment conscience. J'invite donc nos auditeurs à s'emparer en classe de 5e du thème « Vivre avec autrui, famille, amis, réseau » pour mener une réflexion de fond. Mais attention, dans ce cas, il faut fourbir nos arguments et préparer le travail en amont. Car les élèves n'apprécient pas toujours que l'on veuille analyser leurs pratiques et leur sphère privée, notamment les lycéens. Nous pouvons alors faire appel aux travaux de Dominique Cardon, qui est professeur associé à l'Université de Marne-la-Vallée, et qui a catégorisé et décrit les différentes manières de se comporter sur le web en dressant une cartographie. D'ailleurs, vous trouverez les références d'une infographie très facile à utiliser dans notre document d'accompagnement.
Effectivement, cela pourra nous aider à mieux cerner les problèmes, mais peut-être aussi l'ennemi.
Ah, élémentaire, mon cher Serge. On le connaît, cet ennemi, sous l'acronyme GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. Ainsi, en classe de 4e, le thème « Individu et société, confrontation de valeurs » offre l'opportunité de poser une question à nos élèves. Pourquoi ces sociétés, à but lucratif, nous proposent-elles des services gratuits ? Amour de son prochain ? Philanthropie sans borne ? Non, il faut faire comprendre dans nos classes que le but est de récolter de l'homo numericus ces données, ces data, pour reprendre un terme plus à la mode. Pour cela, de puissants algorithmes analysent nos clics, nos choix et calculent ce que l'on appelle notre identité agissante. Prouvons-le alors aux élèves, utilisons le logiciel gratuit CookieWiz qui, sous forme de carte, leur montrera toutes les traces qu'ils laissent sur le web de manière inconsciente. Ou encore le site You See Me, qui leur permettra de dresser leur carte d'identité numérique. Vous pouvez également utiliser, chers auditeurs, le dernier numéro du magazine 01net, où dans un entretien, Dominique Cardon relève l'illusion donnée par ces algorithmes d'un choix pour l'utilisateur, alors qu'il n'en est rien. Voire pire, il limite notre champ d'investigation et notre horizon culturel.
Cela fait déjà beaucoup de possibilités, Philippe, mais n'as-tu pas d'autres outils qui pourraient alimenter le cours en lycée ou en collège ?
Je mentionnerai deux serious games. Tout d'abord, 2025 Ex Machina, que nous avons déjà vanté à ce micro, notamment, rappelons-le, pour les ressources pédagogiques qu'il propose à l'enseignant. Et pour les plus jeunes, au collège, AmiClick, un serious game créé dans notre académie et dont Karine nous parlera dans quelques instants.
Si mon compte est bon, tu viens donc d'aborder quatre identités pour un même individu. Est-ce à dire que, selon la formule célèbre, « je » est un autre ?
Effectivement. Le mot de Rimbaud est plus que jamais valable. Cette fois, à travers la dépendance qu'entretiennent certains des outils numériques, mais également par une autre notion, celle de flux. Ce terme me semble à étudier avec nos élèves dans ce qu'il nous apprend de notre positionnement par rapport à l'information, la rumeur, les médias, pour leur montrer que la pensée a besoin de vacuoles de réflexion, comme le demande Yves Citon dans un article intitulé « Métamorphose du cerveau, lecteur en esprit d'interprétation ». Un temps en quelque sorte suspendu, ne serait-ce pas celui de l'école, où la réflexion se forme. Analyser le flot incessant de tweets, de vidéos sur YouTube, pour finalement s'en rendre maître.
Comment cela ?
Je fais ici référence à une expérience que j'ai vue au salon Educatech en mars 2016, où des lycéens de seconde à la terminale étaient incités à construire sur le net leur CV sous la forme d'un e-portfolio. Ce CV reprenait les productions qu'ils avaient pu réaliser durant 3 ans et les poussait surtout à se demander quelle image, quelle identité ils souhaitaient se forger. Dr Jekyll ou Mr Hyde ? L'identité est plus que jamais au cœur des préoccupations et nous devons accompagner nos élèves dans cette réflexion pour que finalement le meilleur d'eux ressorte dans l'univers numérique.
Les souris et les lettres.
Chers auditeurs, la dernière rubrique de notre émission intitulée « Les sites du jour » est cette fois encore pleine de promesses. En effet, nos deux exploratrices du web, Christelle Delasse et Karine Lanista, ont découvert des productions numériques en apparence très ludiques et qui pourtant peuvent chacune à sa façon devenir de puissants outils pour éveiller la conscience citoyenne de nos élèves, et cela dès le collège. Christelle, tu souhaites d'abord nous parler d'un site qui cache bien son jeu. Il s'agit de Gorafi.
Oui Serge, j'ai envie d'évoquer avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'éducation aux médias. J'aime à penser que le professeur est un voyant, tel que Rimbaud le perçoit, c'est-à-dire celui qui aide à voir, à éclairer les consciences, ou plutôt celui qui essaie de toutes ses forces d'éviter qu'elles ne s'obscurcissent. Et l'éducation aux médias est primordiale dans ce devoir d'aider nos élèves à devenir des citoyens éclairés, libres de tout préjugé, rumeur, jugement à l'emporte-pièce. Pour cela, j'ai décidé de vous parler d'un site qui aide les élèves à ne pas être dupes et exercer leur esprit critique, c'est-à-dire le Gorafi.
Peux-tu nous décrire ce site en quelques mots ?
Alors, le nom même du site nous met sur la piste, car le Gorafi est l'anagramme du Figaro. Il parodie donc un journal d'information sérieux et offre à un œil non averti une apparence crédible, d'autant qu'une phrase indique en bas de la page toute l'information selon des sources contradictoires. Les couleurs, le blanc et le bleu, le bandeau en haut de la page, le menu déroulant en haut à gauche, rubriques société, politique, culture, etc., font référence directement au site du Figaro. Les lecteurs sont même invités à commenter les articles via les réseaux sociaux. Donc, au premier abord, un lecteur peut penser qu'il est devant un journal crédible.
Mais alors, comment nos élèves peuvent-ils comprendre qu'il s'agit d'un journal parodique ?
Eh bien, c'est en lisant le contenu des pages que l'énormité de certains titres saute aux yeux. Par exemple, suite à l'élection de Donald Trump qui a fait mentir tous les sondages, un article est apparu. 110% des Américains assurent qu'ils continueront à faire confiance aux sondages. Ou dans la rubrique société, averse de neige fondue à Paris, les secours s'organisent. Et ce qui est intéressant, c'est de lire l'article pour voir comment les auteurs miment le langage journalistique. Je ne peux résister au plaisir de vous lire une partie de l'article dont je viens d'évoquer le titre. Paris, scène apocalyptique dans Paris, en Île-de-France, après un épisode particulièrement violent de ce que les météorologues appellent de la neige fondue. Reportage. Des millions de franciliens ont été pris au piège. Les secours tentent dans l'immédiat d'aider les personnes les plus en difficulté. C'est terrible, nous recevons des milliers d'appels. Nous demandons aux gens de se calmer. C'est de la neige fondue, non d'un chien. Mais c'est pas vrai, c'est quoi leur problème à ces gens ? Commente Eric, pompier volontaire, en jetant le téléphone de colère à l'autre bout de la pièce. Le trafic des trains, RER et métro étaient saturés et bloqués après qu'un flocon a endommagé une caténaire à Creil, causant des dysfonctionnements sur la totalité du réseau ferroviaire d'Île-de-France et de Picardie. C'était un très gros flocon, souligne un responsable de maintenance. Un autre flocon aurait fait dérailler le RER B sans faire de victimes. C'était un gros flocon, un peu fondu, on n'a rien pu faire, raconte le conducteur sous le choc.
C'est vrai que c'est très amusant, mais comment peut-on exploiter cela en classe ?
Ça dépend évidemment de l'âge des élèves. Dans mon établissement, devant des troisièmes, lors d'une semaine de la presse, j'ai décidé de les piéger en les emmenant sur le site sans leur dire qu'il s'agissait d'un site parodique. Mon objectif était évidemment qu'ils comprennent qu'un article est forcément l'expression d'un point de vue, même s'il s'appuie sur des faits incontestables. C'est au lecteur alors de se forger son propre avis en croisant les sources. Et en les emmenant également sur le site du Figaro, en leur demandant de lire à propos, dans lequel il est bien mentionné que que tous les articles sont faux, en leur demandant de comparer les articles aux articles similaires dans les journaux sérieux, ils ont pu le comprendre. Ce travail pourrait être proposé également en quatrième autour de la thématique « Agir sur le monde, informer, s'informer, déformer ».
Dans tes exemples précédents, les élèves étaient en position de lecteurs critiques. Mais on peut aussi imaginer qu'ils deviennent à leur tour les rédacteurs d'articles de Gorafi.
Oui, alors dans le lycée de Marie, pas celle qui a pris le micro tout à l'heure, mais une autre, l'une de nos collègues du groupe, des élèves ont écrit des articles à la manière du Gorafi dans le cadre d'un travail en littérature et société. L'une d'elles s'est amusée à imaginer les conséquences désastreuses d'une limitation du nombre de photocopies dans l'établissement et a même imaginé que leur professeur de mathématiques, épouvanté, en faisait un malaise. L'anecdote paraît tellement crédible que certains élèves du lycée se sont laissés berner.
En effet, Christelle, un travail autour de Gorafi s'impose, et ceci dès la quatrième, à condition de bien choisir les supports proposés aux élèves en fonction de leur degré de compréhension du monde, ainsi que du niveau de langage employé dans de tels articles. Pour les élèves de lycée, le passage du statut de lecteur à celui de rédacteur me paraît très pertinent. Après Christelle, c'est aujourd'hui Karine qui nous revient parmi les contributeurs des sites du jour. Non seulement on la connaît et on la reconnaît comme une spécialiste des tablettes numériques, mais il s'avère également, comme l'a indiqué tout à l'heure Philippe, qu'elle maîtrise l'univers des jeux sérieux.
En effet, chers auditeurs, je vous avais déjà parlé dans une précédente émission du jeu sérieux au Serious Game 2025 Ex Machina, qui est destiné à responsabiliser les adolescents face aux dangers de la toile, notamment sur les réseaux sociaux. L'Académie d'Orléans-Tours a créé un autre jeu sérieux, spécialement adapté à un jeune public, les 9-12 ans. Il s'agit d'AmiClic. Certains pourraient s'interroger sur le rapport de l'enseignement du français avec les réseaux sociaux. Rappelons tout de même que les nouveaux programmes proposent en complément des œuvres littéraires une proportion d'objets d'études non littéraires, dont, je cite, des productions issues des médias et des réseaux sociaux. Par ailleurs, dans le programme au collège, le français contribue aux 5 domaines, et notamment au domaine 3, la formation de la personne et du citoyen, et également à l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI. On pourrait reléguer l'utilisation de ce jeu pédagogique à une séance de vie de classe, ou en confier l'usage aux professeurs d'histoire-géographie dans le cadre de l'EMC. Toutefois, il peut être exploitable en cours de français, dans l'apprentissage de la compétence d'oral et la construction d'une réflexion personnelle, d'un regard critique de l'élève. On verra cela un peu plus tard. Comment ? Mais voici d'abord une courte présentation du jeu. AmiClic propose d'accomplir des missions. Il y en a 6 à travers les choix que l'élève est amené à faire. Un petit robot le guide dans la pertinence de ses choix en lui indiquant les risques encourus et lui attribue un certain nombre de points. Plus le score est élevé, plus l'élève obtient un « grade » entre guillemets supérieur. Les situations et le monde virtuel proposé sont adaptés à un jeune public. Les objectifs visés sont la manipulation de l'outil informatique et la responsabilisation face aux usages du numérique, l'autonomie, l'interaction entre pairs, le respect des autres, le respect des règles de droit. Comment l'enseignement du français intervient-il ? Comme je vous le disais tout à l'heure, par le biais de l'oral en interaction. En effet, si on peut proposer aux élèves une première familiarisation avec le jeu en autonomie, dans un deuxième temps, on orientera l'activité par un travail en binôme sous forme de tutorat, pour tenir compte non seulement des différences entre les élèves, mais aussi pour travailler l'échange entre pairs. Enfin, une autre étape permettra un retour réflexif en groupe classe sur la bonne attitude à adopter vis-à-vis des réseaux sociaux en pratiquant l'oral en interaction. Ce sera l'occasion de travailler l'expression d'un point de vue argumentatif et sa justification. En effet, si le jeu offre la possibilité de revenir en arrière pour augmenter son score par un défi ludique, le partage en classe sera plus fructueux et sera l'occasion à nouveau d'apprendre à être un citoyen responsable face aux usages des réseaux sociaux, mais également face à la parole de l'autre, dont il faudra tenir compte dans son discours.
Les souris et des lettres.
Eh bien, chers auditeurs des souris et des lettres, voici arrivé le moment de nous séparer. Et donc, de vous remercier pour votre attention, mais aussi de remercier Jeanne, Marie, Angélique, Philippe, Clément, Karine et Christelle pour le travail formidable qu'ils ont encore une fois réalisé. Je voudrais d'ailleurs souligner qu'en plus de son intervention, Christelle vous propose en bonus une analyse très intéressante portant sur un essai au titre Iconoclaste, Oser le bien-être au collège. Et de fait, le site de notre web radio académique offre des services appréciables, comme la possibilité d'écouter notre programme en entier ou par rubrique, ainsi que d'enrichir votre information grâce à ces bonus concoctés par toute notre équipe. Vous pouvez même, chers auditeurs, retrouver l'actualité de notre émission sur notre page Facebook. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire au revoir ? Pas tout à fait. Car je dois vous annoncer que notre émission de 2017 sera la 20e et que nous souhaitons la fêter dignement avec vous. Allez, puisque nous sommes entre nous, je vous livre une petite indiscrétion. Nous avons prévu d'inclure nos prochains enregistrements dans les célébrations, heureuse coïncidence des nombres, du 20e anniversaire du lycée Charles Péguy d'Orléans. Mais en attendant ce moment que nous souhaitons exceptionnel, je vous dis, chers auditeurs, à très bientôt sur notre web radio.